Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
Il est 16h46 ici à New York, dans notre studio du Café Luce. Vous pouvez venir nous voir si vous êtes dans le coin. On sera là quelques jours encore, évidemment, en plein Manhattan, dans le quartier de Hell's Kitchen. Tu sais que la cuisine du diable.
Ouais.
J'adore ce nom.
Pourtant, on y mange très bien.
On y mange très bien, exactement. Pendant ce temps-là, Franck Leboeuf a fait un tacle glissé à quatre bouteilles d'eau.
T'as rien perdu. T'as absolument rien perdu.
Il a rien perdu.
Ça vaut un jaune, ça.
Mais là, il a rien vu. La barre.
Il a cru que c'était Ronaldo.
Il a tout cassé.
Donc, Franck Leboeuf est là, Julien Laurent est là. Et Maxime Chano est là. Tiens, allez sur la chaîne YouTube, vous verrez la rue new-yorkaise. Il y a même un school bus jaune qui est en train de passer. T'as pas plus cliché, hein. Sur YouTube.
Très très bien installé.
Il y a quelques instants.
Beaucoup de chance.
Bon, Fabrice Hawkins à l'entraînement revient. Fabrice, est-ce que tu nous entends ?
Oui, je vous entends bien.
Ah, voilà. On a mis ton jingle. Avec une info ou une observation à l'entraînement, peut-être ?
Ah oui, c'est un petit peu ce que j'ai commencé à vous dire, c'est-à-dire que le flou va être complet jusqu'à demain. On a un petit peu observé ce qui s'est passé, puisque l'entraînement était fermé aux médias, mais on a réussi à savoir ce qui était passé, et donc confirmation qu'il n'y a pas d'indication claire sur qui va jouer au milieu du terrain entre Aurélien Tchouaméni et Manu Koné, et même chose entre Bradley Barcola et Désiré Doué dans le couloir gauche. Alors ils ont fait une opposition et chacune des deux paires a joué une mi-temps, sachant que c'est Bradley Barcola qui a commencé à gauche et Aurélien Tchouaméni qui a commencé au milieu. Est-ce que c'est une indication? On en recevra un petit peu plus plus tard, j'imagine. En tout cas, pour le reste de la composition d'équipe, il y a pas de surprise, évidemment. Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Digne derrière, Adrien Rabiot évidemment au milieu du terrain, et puis Kylian Mbappé, Olysee et Dembélé, bien entendu, eux, ils seront titulaires, il y a pas de souci.
Oui, il a dit l'entraînement, c'est en principe, c'était fermé aux journalistes.
Oui, mais
ça, c'est pas fermé en fait.
Il s'appelle Fabrice Hawkins, les gars. Nous, on a des gars, c'est les meilleurs.
Ah, Sherlock Holmes, quoi.
Le faucon, il est au-dessus du stade. Il survole.
Il vole au-dessus du terrain.
Autre petite coulisse, Kylian Mbappé qui s'est entraîné à part. Hein, la majeure partie de l'entraînement, il l'a vraiment effectué à part avec Cyril Moine, le préparateur physique. Alors, il n'y aura pas de souci, il sera titulaire demain. Mais il y avait une volonté de le protéger peut-être.
Réserver un peu
au coup qu'il a reçu, exactement, qu'il soit vraiment tranquille. Donc il a fait plus des.
Ah, le fameux coup sur le pied.
De passe longue. Ouais. Voilà, exactement. Cette cheville-là qui est toujours un petit peu douloureuse, en tout cas qui est fragile depuis de nombreuses années maintenant.
Depuis le fameux choc avec le Stéphanois Perrin.
Ah ouais, c'est ça.
La date
ouais,
de France en 2020. Ouais. Et après, tu te traînes pendant des années derrière des petites faiblesses.
Et une bonne nouvelle concernant. Moi, j'ai envie de parler de Lucas Digne. Parce que c'est vrai qu'il nous a finalement donné des certitudes au bon moment, notamment contre le Maroc. Il a quand même contré Hakimi, qui est peut-être l'un des meilleurs arrière droit. Donc c'est vrai que dans l'optique de ce match contre Yamal, d'avoir un Lucas Digne qui arrive à un niveau respectable, en tout cas intéressant, je pense que c'est de bon augure aussi pour eux.
D'ailleurs, Fabrice, puisque tu es là, Lucas Digne au PSG, c'est une autre info du jour que tu as donnée. C'est quasi fait, c'est fait. Enfin, qu'est-ce que tu peux en dire ce soir?
Ouais, on peut pas dire que c'est à 100% fait, mais en tout cas, il va signer au Paris Saint-Germain. On vous le disait depuis plusieurs heures maintenant. D'ailleurs, il s'est fait chambrer par tous ses coéquipiers parce que le vestiaire du Paris Saint-Germain, enfin de l'équipe de France, lapsus révélateur, commence à ressembler de plus en plus au vestiaire du PSG, avec déjà Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola.
Surtout que Lucas Hernandez, il va pas sauter de joie.
Et maintenant, ça pourrait conduire à son départ. D'ailleurs, ouais. T'as raison.
Bah
t'as
oui.
T'as raison. Il faudra suivre cette situation. Alors en tout cas, ils l'ont chambré. Voilà, ils l'ont chambré parce qu'ils ont vu dans la presse derrière. Bah évidemment, il aura confirmé puisque c'est la réalité. Il a un accord avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 3 ans. Maintenant, il reste simplement au Paris Saint-Germain de lever la clause parce qu'il y a une clause à Aston Villa qui est inférieure à 10 millions d'euros. Et ça, ce sera fait une fois qu'il sera libre. En gros, une fois que la France.
Et Mendes, il s'en va ou
non, mais il accepte.
Non, et c'est intéressant.
Le backup sera le.
Il va jouer sur le banc.
Ouais, mais il y aura assez de temps de jeu. On l'a vu cette saison. Luis Enrique fera encore plus reposer
certains comme Nuno Mendes maintenant qui a une vraie alternative au poste d'arrière.
Mais la question c'est de savoir si Lucas Digne accepte ce rôle-là au Paris Saint-Germain en étant international français. International titulaire, est-ce que tu as envie de venir en étant numéro 2?
Il est déjà un peu titulaire, alors ça va mieux avec Aston Villa, mais à un moment il a une période qui
est sur la fin. Il jouera 35 matchs quand même. Il jouera 35 matchs.
C'est une très bonne question, mais en fait il l'accepte pour deux raisons. D'abord parce que il choisit ce projet-là aussi parce que c'est un projet qui s'y émerveille à sa famille. Ça va être un cadre familial très français, évidemment très parisien, et dans sa famille ils adorent la capitale. Il a même des enfants qui sont fans du Paris Saint-Germain, donc tout le monde est content que papa signe au Paris Saint-Germain. Et puis il arrive aussi
soyons directs, Fabrice, au PSG on gagne plus qu'en première ligue.
Un peu de beurre dans les épinards.
Non, je pense qu'il aurait pu gagner beaucoup plus ailleurs. Mais en revanche, il n'est pas malheureux et il a un cadre de vie que Paris, il n'y a qu'une ville qui s'appelle Paris dans le monde.
C'est Birmingham, Paris, je préfère Paris moi aussi.
Ouais. Aston Villa, ils sont exactement. Vraiment, et là ils peuvent rien y faire. C'est une clause, comme l'a dit très bien Fabrice, ils perdent Tielemans sur une clause aussi. Donc en 24 heures, tu viens de perdre ton meilleur joueur qui va à Manchester United, tout à fait. Ton meilleur joueur de la saison dernière, c'était Tielemans pour eux. Ton régulateur, ton patron, tout ce que tu veux, et tu perds ton arrière gauche qui est redevenu titulaire, qui était bon, à des prix qui sont pas vraiment les prix du marché non plus. Hein. Ni pour Tielemans à 35 millions d'euros.
Ah oui, surtout pas.
Tielemans. Pour Digne à 8-10, on va dire.
Manquerait pas qu'ils perdent Rodgers et Martinez. Et puis
Rodgers, il va partir aussi.
Et Martinez,
il va tout reconstruire.
C'est énorme.
Bon, voilà pour cette info mercato. Merci Fabrice en tout cas pour ce direct depuis l'entraînement en l'occurrence. Ciao.
Ouais, je vois conférence de presse là, Deschamps et Warren Zaïre-Emery dans une demi-heure.
Bon, d'ailleurs Warren Zaïre-Emery qu'on n'a pas évoqué dans une possibilité au milieu de terrain aussi tout à l'heure. On l'a un peu oublié.
C'est-à-dire titulaire?
Bah non, mais je sais pas, quand on leur disait Tchouaméni.
Il a fait une bonne entrée, mais.
Ah bon, c'est sa première rentrée. Bravo au chapitre avec. Rotation sur. Pour l'entraînement.
Et tu sais, dans le débat Doué Barcola aussi.
Ouais.
Par rapport à l'adversaire et à Porro arrière droit, même s'il monte moins que ce qu'on a vu pour l'instant, tu fais plus confiance à Doué ou Barcola pour ton ailier qui va suivre le latéral le plus? Après avoir vu Doué contre Hakimi, même si encore une fois c'était un Maroc décevant et Hakimi n'a pas vraiment joué son jeu parce que le plan de jeu était différent de ce qu'ils ont fait habituellement, moi je pense que j'ai plus confiance en Doué pour bien défendre sur
les phases défensives tous les jours, bien sûr.
Qu'un Barcola, même si après les qualités de Barcola en contre notamment pour prendre les espaces, etc. Mais moi je pense que Doué sera titulaire, que Barcola entrera en jeu à l'heure de jeu ou à la 65e et que. Il fait plus confiance à Doué en phase défensive qu'à Barcola.
Ouais, mais par contre, tu sais que si l'Espagne joue son jeu comme ils prétendent vouloir le faire, ils vont jouer vers l'avant et tu auras plus d'espace derrière, et un Barcola est meilleur qu'un Doué pour prendre l'espace.
Bon, les gars, l'Argentine semble physiquement un peu sur la jante. Les Anglais, ils ont été loin d'être convaincants contre les Suisses.
C'est vrai.
Les Espagnols, c'est pas non plus une attaque flamboyante, j'entends pas de neuf. Vous allez me dire, ils ont été champions du monde comme ça, mais enfin bon. Au final, on a quand même l'impression que notre équipe de France, aujourd'hui, c'est la grande favorite des quatre.
Et de loin.
Est-ce qu'avant la demi-finale, on peut se dire clairement, dans l'after, écoutez, là, si on ne la gagne pas, cette Coupe du Monde, ce sera un échec?
On a déjà eu cette discussion sur un autre que j'ai fait dernièrement. Mais c'est le mot échec. Je trouve que le mot échec, il est fort. Parce que tu peux perdre un match, une finale de Coupe du Monde, en tapant trois fois sur le poteau et l'autre marque une fois. J'irais plutôt une déception. Une vraie déception parce qu'on aime ce groupe. Je trouve que tout le monde s'accorde à dire que ce groupe vit bien, joue bien, a une belle attitude. On l'a vu contre le Paraguay. Tout est beau, tout est bien dans un monde parfait. Et que si la France est à 100%, elle devrait gagner cette Coupe du Monde parce que c'est la meilleure équipe. Voilà. Maintenant, t'as la grande image. Après le football, on sait que c'est des détails. Et si ça veut pas rentrer parce que ça tape sur le poteau, parce que t'as pas de chance, faudra pas être méchant avec cette équipe de France. Tu pourras pas être méchant.
Non, pas être méchant, mais c'est quand même un échec, Franck. On serait déçu si l'équipe de France ne venait pas.
Je vais le dire, ce sera une déception. Ouais. Un échec, c'est une déception. Critique. Pour moi, le mot échec.
Quand tu regardes les forces en présence,
un échec est une critique.
Ouais, mais quand tu regardes les forces en présence, quand t'as Mbappé, quand t'as le Ballon d'Or en titre, quand t'as Michael Olise qui a roulé sur la Bundesliga, si tu gagnes pas cette Coupe du Monde, c'est un petit peu ce qui s'est passé en 2002.
Tu as été bien placé pour savoir. Et il y a très peu longtemps, il y a très peu de temps, tu joues encore. Tu sais très bien, comme moi, que tu peux faire le le meilleur match de ta vie.
Ça peut arriver.
Ça veut pas rentrer. Ça veut pas rentrer. Et à ce moment-là, tu tires des conclusions qui sont pas forcément les bonnes.
Je suis d'accord avec toi, mais si tu compares avec ce qui s'est passé en 2002, où est-ce que justement t'avais ces offensives, t'avais Trezeguet, t'avais Cissé, me semble-t-il, et t'avais les trois meilleurs buteurs des trois championnats. Quand tu perds, en tout cas, quand tu vas pas au bout, c'est un échec. C'est un échec.
Tu tires trois fois ou deux fois, trois fois sur le poteau.
C'est un échec. C'est pas une déception.
Tu perds pas en demi-finale.
Non, non, mais c'est une question. C'est un échec ou c'est une déception? Mais c'est la même chose.
Tu retiens
que les gagnants. Mais j'entends ce que tu veux dire. Mais là, c'est l'ancien champion. Enfin, c'est l'ancien champion du monde.
On dit l'ancien champion du monde,
champion du monde.
T'inquiète pas, il le dit tout le temps.
Il est toujours au présent.
En français, en anglais.
Vous remarquerez qu'à RMC, on a été cool parce que les deux gars qui sont sur le but de Bouba Diop, c'est Franck Leboeuf et Manu Petit. On a pris les deux.
On leur a donné du travail. Beaucoup.
Mais nous, on assume. C'est ça le truc. On assume nos échecs. Mais c'était un échec parce que on tape trois fois sur le poteau, mais c'est le premier match. On passe par les groupes. On a été champion du monde, champion d'Europe, champion de la Confédération. Bien sûr qu'on doit faire mieux. Mais là, c'est incomparable. Cette équipe joue magnifiquement. Elle a encore une fois un esprit super. Il y a tout qui est bon.
Pour moi, c'est une grosse occasion.
Tu dis quoi, Julien?
Pour moi, c'est une grosse occasion que tu raterais si tu
n'es
pas champion. Pas un échec. Donc, on est satisfait.
Non, j'ai pas dit c'est satisfait. Donc,
qu'est-ce que tu es méchant, toi?
Non, mais j'essaie de comprendre, en fait. T'as les meilleurs joueurs du monde un peu partout sur le terrain.
Lui,
non,
hein,
mais c'est parce que je suis dur avec cette équipe de France. Oui, un petit peu, c'est vrai. Je l'ai encore, le match perdu 3-1, je l'ai encore à travers la gorge.
Ah, bah ouais,
c'est
pas encore, mal. Ils auraient
dû le
0-0. Le 0-0, j'y étais pas, c'est pour ça que.
Ah, c'est pour ça qu'il y a un peu.
Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent maintenant. J'ai été Manuel
Petit. Non, non, mais sérieusement, quand tu regardes un petit peu les forces en présence, t'as les deux meilleurs défenseurs centraux, t'as un quatuor exceptionnel, enfin, t'as une équipe qui normalement tu dois rouler sur tout le monde, et d'ailleurs tu l'as vu quand tu regardes l'Argentine, c'est poussif, l'Angleterre c'est poussif, l'Espagne c'est poussif, hein, il faut aussi remettre l'église au centre du village. C'est qu'aujourd'hui l'équipe de France, la manière dont elle domine cette compétition, ses adversaires, excuse-moi, si l'équipe de France ne gagne pas cette troisième étoile, pour moi ça sera un échec. Je ne blâmerai ni Deschamps ni les joueurs, mais ça reste malgré tout un échec, parce que quand tu vois un petit peu le contenu et ce qu'ils nous montrent depuis le début de cette compétition, honnêtement ils doivent y aller tout droit, les Français, ils doivent même si tu ne maîtrises évidemment pas tous les facteurs, c'est vrai que dans le foot.
Mais là, moi, il y avait une question, pardon, vas-y. Gilbert, j'en ai parlé à ESPN l'autre fois où je travaillais, et je disais, peut-être qu'on a la, ça sera un autre débat, mais peut-être qu'on a la meilleure équipe de France qu'on ait jamais vue. Alors il y a un vrai débat, hein, parce qu'il y a eu 58, il y a eu 82-86, il y a eu bien sûr 98, et là il y a cette équipe. 2018, je pense que c'est pas la meilleure équipe, et le débat il est même pas là. Mais là, il y a un vrai débat.
Moi, je pense que le match, il est entre cette équipe, si elle gagne.
Il faut qu'elle gagne.
Si elle gagne, et le cycle 82-86.
Évidemment, c'est
l'ancien qui parle.
Parce que là, c'était hyper offensif.
Il y avait un manque d'expérience.
Et peut-être que l'Euro 2000.
Voilà, j'allais faire nuance, moi. Pas forcément 98, c'est l'Euro 2000 quand tu rajoutes Anelka, quand t'as Trezeguet et Henry qui sont arrivés quand même en maturité.
Oui, mais l'Euro, on dit souvent que c'est plus difficile. En tout cas, l'Euro d'avant était plus difficile à gagner qu'une Coupe du Monde aussi.
Bien sûr, je suis assez d'accord.